spécialiste de l'araignée. Il y avait au Saulgeoire un père qui était très spécialiste sur la connaissance de l'araignée. Je crois que tout ce qui avait paru sur l'araignée, il l'avait dans sa bibliothèque. Parce que l'araignée est un animal particulièrement violent et où la sexualité est très développée. Alors ça l'intéressait. Alors je me suis toujours dit, on était au couvent à Étiole. On voit très bien comment un tremblement de terre fait que tout disparaît. On ne découvre qu'une seule chose, une seule cellule qui reste, la cellule de ce père. Et on découvre là des quantités de livres sur l'araignée, la sexualité de l'araignée, tout sur l'araignée. Aussi, ce couvent de moines était consacré à étudier l'araignée, qui était sans doute un animal sacré. C'est pour vous dire que la vie de l'araignée, c'est pas commode à comprendre. Au fond, vous projetez sur les animaux ce que vous ressentez. La fidélité du chien. Jusqu'où va la fidélité du chien ? Elle était longtemps absente de sa maîtresse, parce qu'ils sont particulièrement attachés aux maîtresses, ils sont sans doute plus tout. Alors il reste là, absent, et puis il pleure quand elle revient, il pleure quand elle s'en va, comme c'est touchant. Vous savez, la prière de l'arche, c'est le chien qui dit à Dieu, au fond, il n'y a que nous deux qui sommes fidèles, vous et moi. Tout le reste n'est pas fidèle. C'est vrai, la fidélité du chien, c'est quelque chose de très très extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein ? On peut décrire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas été chien pour savoir ce que c'était que la fidélité du chien. Je sais à peu près ce que c'est que la fidélité de l'homme. Je dis à peu près. Parce que je vois que la fidélité, ça prend des modalités différentes. C'est pour ça que, pour comprendre la vie, il faut comprendre notre vie humaine. Et c'est à partir de notre vie humaine que nous essayons de comprendre analogiquement la vie du chien, la vie du chat. Parce que ce sont des animaux domestiques qu'on aime ordinairement beaucoup. Il y a des spécialistes qui aiment les chats. Il y en a d'autres qui aiment les chiens. Il y en a d'autres qui aiment les boas. Puisque, paraît-il, c'est un animal particulièrement attachant. On m'a dit qu'à Paris, pas maintenant, il y a 20 ans, j'ai pas vérifié. Il y avait une personne, on me l'a certifié, je l'ai pas vu moi, qui vivait avec un boa, dans son appartement. Compagnie assez particulière. Enfin, le boa, il faut qu'il ait sa nourriture toutes les semaines. Il digère. Il est tranquille. Mais si jamais vous oubliez, il se venge. Et il se venge très bien. Parce que c'est puissant. Quand un boa. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais c'était au Sénégal, au grand séminaire. Où il y avait un boa qui venait régulièrement rôder. Un jour, un séminariste a voulu le taquiner. Et il s'est rangé, il s'est jeté sur lui. Alors ça étouffe les gens. Hein. On n'avait qu'une seule solution, c'est de prendre une scie et de le scier. Mais c'est très difficile. C'est vrai, la vie des animaux est une chose extraordinaire. La vie des animaux est une chose très extraordinaire dans leur variété. C'est vrai, c'est intéressant. Il n'y a rien de plus reposant. Quand on a travaillé pendant une heure ou deux heures d'aller au zoo, il n'y en a pas ici, pas encore. Mais ce serait très reposant. On demandait ça aux maires. Parce qu'il faudrait là à côté, mais il faudrait qu'ils fassent un petit zoo. Ils seraient capables de le faire. Mais ce serait intéressant de voir. Il n'y a rien de plus reposant. Je me souviens, avec été psychanalyste. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Là encore, qu'est-ce que c'est que la vie? Je travaillais avec des psychanalystes. Et on essayait de savoir qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Par définition, on ne sait pas ce que c'est. Hein. L'inconscient. Définir l'inconscient. On avait discuté pendant 2 heures sur l'inconscient. On n'avait jamais arrivé à préciser ce que c'est. Alors on s'est dit, bon, on va aller se reposer au zoo. Et quand on va au zoo avec des psychanalystes, on va tout de suite à l'endroit des singes. Tout de suite. Je comprends du reste, parce que c'était intéressant. Alors voilà, des singes. Il y avait justement la femelle qui venait d'avoir son petit. Et elle le portait de façon très très forturelle. Et on voyait le crâne. prestation droite de l'homme. Parce que c'est ça qui intéresse Aristote. Comment se fait-il que l'homme se tient droit? Alors on dira pour libérer les mains. Oui, mais oui, pour libérer les mains, je tiens droit, c'est sûr. Je mange à quatre pattes. Les mains seraient moins subtiles. Mais qu'à essayer. Nos mains sont libérées par la station droite. Et par le fait même, elles s'acquièrent une subtilité beaucoup plus grande. bien ça, ce qui caractérise le vivant. Il fait que le monde extérieur, son monde extérieur, son milieu, il l'utilise. Je respire. Il n'y avait plus d'oxygène. Ça ne durait pas très longtemps. Et quand je suis très fatigué, je suis d'autant plus sensible au milieu. Parce que le grand vivant crée son milieu. Vivant, il lui sous-cloche. Et vous voyez ça à tous les points de vue. Il y a des personnes qui ne peuvent vivre que dans leur milieu. Et si une chaise de leur salon a bougé, ils ne vivent plus. S'il y a quelque chose de changé, ils ne vivent plus. D'autres, non, pas d'importance, on met ça comme on veut. On vit. On crée son milieu. Un chêne crée son milieu. Une petite violette. Pas de fou. Et il y a des plantes encore plus subtiles qui ont besoin qu'on les enveloppe pour éviter des climats trop froids. C'est la première constatation. Les non-vivants, on ne cherche pas à savoir à quel moment exact et jusqu'où va le vivant. Est-ce que c'est le virus? Est-ce que c'est... Hop! Il y a quelquefois dans l'ordre de la vie des plantes, un passage entre le monde physique et le monde des vivants qui est très délicat. C'est toujours ce que me dit ce savant. Que le passage entre le monde physique et le monde des vivants, pour le savant, est très délicat. Et c'est vrai. De sorte que les biologistes se distinguent en deux groupes. Les réductionnistes et les spirituels. C'est lui-même qui m'a dit cette distinction. Je trouve ça très joli. Réductionniste. La vie se fonde, la vie biologique se fonde sur le monde de la quantité et de la matière. Sur le monde physique. C'est sûr. Et il y a des analogies entre le monde physique et le monde des vivants. Et donc certains disent au fond, c'est simplement une évolution. Puis on va pousser une petite herbe là-dedans. Moi, ça m'émeut toujours, ça. La victoire de ce petite tige par rapport à cette espèce de robacadabre. Il a trouvé le joint de pousser. C'est extraordinaire, la vie. Regardez le lierre.
Le psychologue appelle ça.
bien qu'il y a dans la vie une sorte d'égocentrisme très puissant. On attire à soi. Oui, ce n'est pas l'assimilation. Mais on voit très bien comment il peut y avoir un défaut de ce qui l'assimile et qui alors devient tyrannique. classe. C'est très subjectif. Je suis de mauvaise humeur. La classe ne le voit pas toujours. Parce qu'elle n'a pas arrivé à se dominer suffisamment pour que la mauvaise humeur demeure intérieure. Quel beau sourire. Ah, oh, comme tu es gai aujourd'hui. Regarde. Pas du tout. Il y a la face extérieure, la face intérieure. Et ça, c'est la vie. Je vois tout de suite une double connaissance. À cause de la vie que je veux saisir, je ne peux saisir la vie que de l'intérieur. Autrement, je saisis les effets de la vie, les conséquences, et pas plus. Et ça, c'est énorme de comprendre qu'il y a, pour la vie, deux connaissances. Une connaissance dite objective, je dis bien dite objective, et une connaissance qui se fait de l'intérieur. Et c'est peut-être la connaissance intérieure qui est la plus objective pour la vie. Je pose la question. Il faut se poser des questions. Le philosophe se pose tout le temps des questions. Est-ce que connaître la vie de l'intérieur, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus objectif que de la connaître de l'extérieur? Puisque de l'extérieur, je ne vois que les aspects matériels. Je ne vois que ses effets. Tandis que de l'intérieur, ah, oh, c'est différent. Je saisis le jaillissement de la vie. Or, est-ce que c'est pas ça qui caractérise la vie? Un jaillissement. Et donc, ce qui est très curieux pour la vie, c'est que objectivité et subjectivité se renversent. La subjectivité me donne la plus grande objectivité. Alors ça, c'est très difficile à répondre. Mais c'est intéressant. Parce que je vois donc que objectivité et subjectivité, c'est des passe-partout. Qu'en réalité, il y a quelque chose de plus profond. Toute connaissance est objective et subjective. Mais il y a un partage entre les deux. Et donc, il faut aller plus loin. Il faut dépasser ça. Et la vie m'oblige à le dépasser. Mais ce qui m'intéresse, c'est de saisir la source de la vie. Comment saisir la source de la vie? Première constatation. Donc la première, intériorité, extériorité, les deux sont nécessaires pour saisir la vie. Deuxième constatation. Pour être un grand vivant, je me repose beaucoup. Et je... profond, je me repose. Vous voyez, très vite la complexité avec les petites paresses. Et c'est vrai. Alors il y a repos et repos. On va distinguer après. Chez le vivant, il y a des repos et des... Mais c'est vrai que la première expérience de ma vie, je l'ai tous les matins, quand je me réveille. Et si j'étais tout à fait lucide, je devrais remercier celui qui est source de ma vie, de me permettre que tous les matins je me réveille. Parce qu'il y a des gens qui ne se réveillent plus. Ils continuent de dormir et dans un espèce de coma. Ils ne se réveillent plus. Ensuite, de ma vie. Ensuite, je peux faire des exercices de gymnastique pour bien me réveiller. Un vieux médecin m'avait donné ce conseil, un bon médecin de famille. Dites à vos novices, première chose à faire, c'est qu'ils se mettent à la fenêtre et puis qu'ils se mettent à respirer à fond. Quelques bons exercices de respiration, ça les met de bonne humeur. Yeah. reçoit toutes les mauvaises humeurs. Quand vous recevez les mauvaises humeurs de quelqu'un, vous dites « Ah, ça prouve qu'il m'aime beaucoup. » Dites-vous ça, ça recommence, ça, c'est merveilleux. Parce que ça remet la bonne humeur, voyez-vous. Et c'est vrai, ce qu'il y a de mieux, c'est comme ça que ça se passe. C'est des pauvres petits animaux, un petit chien qui est là, gentil tout plein, il recevra des bonnes tapes. Parce qu'on l'aime bien, il en a de mauvaise humeur. Le venin passe sur lui. Alors on réfléchit sur toutes ces opérations. C'est ce qu'on doit faire. Le philosophe part de l'expérience. Le philosophe réaliste part de l'expérience. Il s'aperçoit qu'il y a deux types d'expériences. L'expérience que tout le monde voit. Je prends mon petit déjeuner. Il y a toujours un voisin qui me regarde. Mon petit déjeuner. Je peux le faire en silence, je peux parler. Et puis il y a l'expérience interne. Je suis joyeux. Je suis triste. C'est pénible. C'est extraordinairement merveilleux. Deux types d'expériences. Laquelle est-elle la plus intéressante? Les deux sont intéressantes. Mais en contact avec les choses extérieures, je les touche, je les vois. L'autre, avec moi-même, mon intériorité se creuse. Quand on est fatigué, écoutez, quelqu'un qui vous parle, on ferme les yeux. Mais ça peut agacer celui qui parle. J'aime voir des yeux. Oh, très bien. Mais je n'écoute pas avec mes yeux. Et j'aime mieux fermer les yeux pour être tout entier à l'écoute. Ça peut agacer parce que je ne vois pas quand tu fermes les yeux, si tu n'écoutes pas, voyez. Alors la complémentarité des expériences externes et des expériences internes. Il y a des personnes humaines qui n'ont contact que par l'extérieur. Aucune intériorité. Hélas, ça existe. Ça pose ce que c'est. Il y a des personnes qui n'ont que l'intériorité. Ils sont aveugles. Ils sont sourds. Ils deviennent sourds. Ils deviennent aveugles. L'intériorité augmente. Et quand l'intériorité augmente, quelquefois, l'imagination augmente. Et je construis des châteaux en Espagne. Je construis des projets. Et je ne suis plus dans le réel. Je vis dans mon son. Ce que j'imagine, c'est tellement plus intéressant que la réalité, ce que j'imagine. Parce que quand j'imagine quelque chose, normalement, j'ai un rôle important. Tandis que quand je suis devant la réalité, j'ai un rôle quelquefois très secondaire. Il y en a toujours qui passent devant moi. Rôle. De sorte que quelquefois, progressivement, je ne m'intéresse plus qu'à mes expériences internes et à mes images. Je vis dans un monde intérieur, très loin. Alors on dira, mais tu es dans ton imaginaire, tu es dans ta boule, tu vis dedans. C'est pas du tout le réel. Alors fais un effort pour revenir au réel. Oui, il y a toute une éducation, une auto-éducation. Chacun d'entre nous, être présent à celui qui est là en face de moi, être présent à moi-même. Il y a deux présences constantes. une attention à moi et tu as récité trois fois ton disque. Il y a un mécanisme comme ça. C'est une puits d'expérience. C'est une sorte de répétition. Le vivant ne répète pas. C'est très curieux. C'est quand la vie diminue qu'on répète. C'est quand on est dans l'imperfection qu'on répète. Alors on imite et on répète. Il y a un signe de ça. Vous avez tous visité là, ces lieux. On voit ces pauvres gens qui font toujours le même geste, toujours la même parole. C'est comme ça que Freud a commencé. Parce que de son temps, à Sainte-Anne, c'était pas drôle. Les pauvres types, comme disait vous. On les enfermait, on les traitait comme des brutes. Et Freud n'a pas accepté ça. Et ça, c'est le beau côté de Freud. Fausse intériorité imaginative. Donc, on s'aperçoit que notre monde de vivant, expérience externe, expérience interne, est très complexe et varie selon nos occupations. Puis, quand vous recevez du courrier du monde entier, votre expérience interne est très vaste. Quand vous recevez une lettre par an, ça existe. Il n'y a plus beaucoup de contacts à l'extérieur. Donc vous voyez là la très grande variété pour chacun d'entre nous. On réfléchit sur ces expériences et on voit que ce sont mes expériences. Que je suis présent à travers toutes ces expériences, plus ou moins. Et quelquefois, j'imagine. Alors, je me pose la question. Qu'est-ce qui fait l'unité de ma vie? Qu'est-ce qui fait la variété énorme de ma vie? Si vous ne vous posez pas la question, vous restez dans la description. Et si vous voulez chercher la vérité, qu'est-ce que c'est que ma vie humaine? Qu'est-ce qui distingue ma vie humaine de la vie de l'animal, du petit chien, du petit chat, de l'araignée, du bois? Qu'est-ce qui distingue ma vie humaine? C'est que je suis capable de réfléchir sur ma vie. Cette attitude réflexive, la conscience que j'ai de mes diverses activités, ça joue un rôle très important, ça. Je comprends que pour Descartes, la conscience prend alors une importance primordiale. Mais c'est vrai que dès qu'on est devant ce phénomène de réfléchir, la conscience prend une importance énorme. Et je réfléchis sur la diversité de mes opérations et l'unité fondamentale. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous savez que c'est vous qui vous êtes endormi le soir. Si vous avez passé une nuit pleine de cauchemars, il y a eu des diversités. Une mauvaise nuit. Ah, j'ai mal dormi. Et on se réveille plus fatigué. conscience qui avait cette continuité. La conscience intérieure. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a cette constatation très simple, mais capitale. Capitale. Cette unité dans la diversité. Et plus je suis vivant, plus la diversité est forte. Quand je commence à être fatigué, à être un peu malade, la diversité s'atténue. Ça, c'est une constatation que les psychanalystes font et qui est capitale. Quand ils voient que de fait, on commence à se mettre en colère, c'est bon signe. Pas pour la vie commune, mais pour le psychanalyste. C'est bon signe. Ça prouve que vous retrouvez un tout petit peu votre autonomie. Tandis que quand on laisse couler, oh tant pis, ça n'a pas d'importance, on laisse couler. Et il n'y a plus que la concupiscible qui prend tout. Mauvais signe. C'est vous. Les racines, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. C'est vrai. Quand je me mets en colère, je me mets toujours en colère vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Quelquefois, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais ordinairement, la colère nous fait découvrir l'autre. L'autre qu'on veut supprimer. L'autre avec qui on veut se battre.